France Culture.
Question d'islam par Al Bunshir. Il y a deux jours, le 17 octobre dernier, nous avons vécu la journée mondiale du refus de la misère. Cette journée internationale pour l'élimination de la pauvreté est reconnue, décrétée par l'ONU. Et à cette occasion, nous allons parler du don dans tous ses états, de la gratuité du don, de la solidarité avec ceux qui sont dans la détresse, ceux qui souffrent, avec les indigents. Et pour évoquer ce sujet, j'ai grand plaisir à recevoir Tarek Obrou. Tarek Obrou, bonjour.
Bonjour.
Vous nous faites l'amitié de nous parler de Bordeaux où vous êtes. Vous êtes grand imam de Bordeaux, théologien, recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux, essayiste, un homme de réflexion. Et vous essayez de rendre accessible votre pensée et les notions liées à l'islam, et je cite votre dernier ouvrage, « L'islam pour les nuls » aux éditions First. Tarek Obrou, la gratuité du don, et surtout le don dans sa dimension canonique. Je me rappelle qu'un Marcel Mauss, par exemple, l'anthropologue français connu, dans son essai sur le don, dit « on ne peut pas faire l'économie, si je puis dire, de la notion d'aumône ». Et l'aumône est centrale dans le monothéisme abrahamique, judéo-islamo-chrétien.
Oui, effectivement, le don est au cœur de toute religion qui se respecte, puisque l'existence nous a été donnée, la création nous a été donnée, la révélation nous a été donnée, tout nous a été donné. Nous ne sommes pas les créateurs du monde. Nos biens nous viennent de l'extérieur, même si nous faisons l'effort de les acquérir. Mais la force, l'intelligence, ce que nous sommes, nous ne l'avons pas créé. Et donc, en réalité, comme dit le mystique, l'existence est un don. Et donc, le don est plus qu'un geste de partage matériel, c'est une vision du monde. C'est même un paradigme herméneutique qui nous permet de recevoir la création, d'en faire un bon usage, de recevoir la révélation, d'en faire un bon usage, comment accueillir la révélation comme un don, le partager avec autrui. Mais le partage, ce n'est pas imposition. Donc, il y a cette gratuité, cette sollicitude. Et donc, effectivement, le don, c'est plus qu'un don matériel. C'est une vision du monde, de la divinité, de l'homme. Nous sommes tous vulnérables, notre condition est misérable. L'homme a été créé vulnérable, donc pour être un donateur, il faut être dans l'empathie, il faut être dans la compassion, sentir ce que le pauvre sent, et donc il faut se sentir pauvre soi-même pour pouvoir partager justement son bien. Donc effectivement, l'islam, comme toutes les religions monothéistes, a inscrit le don parmi les pratiques les plus importantes, à tel degré que l'islam a inscrit la zakat comme troisième pilier de la pratique canonique en islam.
Nous en aurons à en parler simplement pour dire que, curieusement pour certains, l'adverbe n'est pas de moi, elle est qualifiée d'aumône légale. C'est comme si l'aumône a besoin d'être légalisée ou relevant de la loi canonique en quelque sorte. Mais pour arriver à cela, je voudrais d'abord, dans le sillage de ce que vous dites, Tarek Obrou, c'est le fait que l'homme est récipiendaire du don de la vie, il reçoit la vie. Ça, on est dans un cadre de foi, de croyance, dans un paradigme herméneutique, comme vous dites si bien, dans une interprétation de ce don de la révélation, de la nature, des splendeurs de la création, etc. En revanche, si la caractéristique du don, c'est sa gratuité, Pour certains, la gratuité totale paraît incompréhensible ou semble être un luxe dans un monde régi par les échanges économiques et la loi du marché. Si la destinée de l'homme se limite à une vie matérielle dans la jungle du consumérisme, il va de soi que le don totalement gratuit paraît irrationnel.
Écoutez, c'est une question très, très délicate et épineuse. Est-ce que vraiment, lorsqu'on fait un don, est-ce qu'on est totalement désintéressé? En tout cas, le donateur doit faire l'effort de faire don inconditionnel. Il n'y a pas d'exigence de retour. C'est ça la gratuité. On n'exige pas un retour. On n'exige pas une réciprocité. Mais c'est très difficile à le réaliser dans l'absolu. Mais en tout cas, c'est pour cette raison que le Coran parle « fi sabilillah » pour la face de Dieu, « liwajhillah ». C'est-à-dire, on donne le don pour l'absolu, ce qui nous libère justement de cette attente d'un retour de la part du bénéficiaire du don. Et donc, effectivement, il y a une relation triangulaire dans le don. Il y a le Dieu qui est là-dedans. Donner aux pauvres, c'est donner à Dieu lui-même. Et donner à Dieu, c'est donner aux pauvres. C'est-à-dire, on sacralise d'une certaine manière, le bénéficiaire du don. Donc effectivement, la gratuité, c'est une notion très délicate. Pour Derrida, il n'y a pas de don, il n'y a pas de gratuité, donc il ne croit pas en cela, donc il critique beaucoup la thèse de Marcel Mauss, etc. Il refute le don, ça n'existe pas le don, parce qu'il y a toujours un intéressement quelconque. Et effectivement, il a quelque peu raison, parce qu'inconsciemment, il y a toujours une attente cachée à travers le don, parfois plus ou moins explicite. Et les mystiques, ils ont beaucoup travaillé sur cette question de la gratuité. Est-ce que mon don, vraiment, il est gratuit ou vraiment il est intéressé subrepticement, subtilement? Il y a toujours une attente quelque part. Donc, l'essentiel, c'est d'essayer de conscientiser cette relativité de la gratuité du don.
Si nous restons, encore une fois, uniquement dans une approche profane des choses ou selon les standard de la science économique, les gens généreux ne feraient que perdre ce qu'ils possèdent sans raison. Ils manqueraient alors d'intelligence, puisque donner sans recevoir, ça ne peut pas fonctionner indéfiniment. Et puis nous avons eu, à travers l'histoire, le don contre don, il y a une sorte de rivalité à qui doit donner davantage, le potlatch, présenté, théorisé notamment par Georges Bataille et Marcel Mauss. Et à ma connaissance, je crois qu'il a été interdit par le gouvernement canadien, en tout cas pour la partie occidentale du Canada, à la fin du 19e siècle. Cette gratuité du don fait que sa propre rétribution, c'est le fait de donner, en quelque sorte. Le symbole du don, c'est sa propre fin.
Oui, la satisfaction du don, c'est-à-dire trouver plaisir dans le don. Mais la satisfaction est elle-même quelque chose d'intéressé. Donc, on se fait plaisir d'une certaine manière. Donc, il y aurait un égoïsme subreptice dans le don. On se satisfait soi-même. C'est au niveau psychanalytique, au niveau mystique, c'est très difficile de... Il n'y a que Dieu qui fait un don dans l'absolu sans attente. Le donateur par excellence, c'est le créateur. Mais tant que l'homme est homme, la gratuité absolue de son don est une utopie vers laquelle le donateur doit tendre, en quelque sorte. C'est une question vraiment épineuse. Ça fait couler beaucoup d'encre sociologique et théologique et psychologique en la matière. Est-ce que vraiment on peut parler de la gratuité du don?
Oui.
Voilà, c'est la question qui se pose.
D'aucuns ont osé même parler de cette gratuité du don qui est suspecte, parce qu'on n'offre jamais rien sans contrepartie. Néanmoins, il reste le don d'amour, l'amour oblatif, l'amour incandescent, puissant, sans retour, l'amour désintéressé, celui qui caractérise l'idée même du don et qui l'incarne.
Mais le problème se pose également pour l'amour, également, c'est comme le don. On s'aime à travers les autres, d'une certaine manière. L'amour, c'est comme le don. Est-ce que vraiment on aime autrui pour ce qu'il est, ou bien parce qu'il y a vraiment une forme d'égoïsme dans la relation de l'amour. L'islam parle plutôt de rahma, la miséricorde, c'est-à-dire un rapport d'un amour maternel qui n'attend pas de retour, qui donne la vie, tout simplement. Et il y a des nuances. Donc, l'amour lui-même est un sujet de discussion en la matière. Est-ce qu'il y a un amour absolu? Qu'est-ce que c'est que l'amour?
Et donc, pour sortir de ces impasses, il y a des interprétations, il y a l'interprétation théologique, nous la verrons avec vous, Tarkobrou, il y a aussi une interprétation philosophique du don qui requiert des présupposés anthropologiques et métaphysiques. C'est le rapport de l'homme à la richesse, sa relation avec les biens matériels, l'accumulation de thésauriser ses biens, le fait de s'y agripper, de tenir mordicus comme ça à la fortune, ou pouvoir s'en départir, ça relève des traits de caractère de la personne finalement.
À un niveau plus théologique, le Coran souligne souvent que le bien de ce monde appartient au propriétaire absolu qui est Dieu. Nous sommes que les gestionnaires de ces biens. Anfiqou mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, dit le verset, dépensez de ce que Dieu vous a confié. Donc, Dieu nous a donné certaines choses, l'intelligence, la créativité, des biens, etc. Donc, nous devons partager un bien qui nous a été confié de manière plus ou moins directe. Et donc, nous sommes les califes, les représentants de Dieu sur terre, les gestionnaires du monde, mais nous ne possédons pas dans l'absolu nos biens, nos propres biens. C'est pour cette raison que, en tout cas, le musulman, lorsqu'il donne, il sait qu'il donne de ce que Dieu lui a confié, ce qui peut déculpabiliser un petit peu le bénéficiaire du don, d'une certaine manière. Donc, cette vision du don, cette relativité du don, nous sommes vraiment, nous ne donnons pas quelque chose que nous avons créé nous-mêmes à partir de rien. Nous avons reçu quelque chose, nous la partageons avec les autres.
Oui, c'est même au-delà, si je puis me permettre, cher Tarkobrou, que le fait de déculpabiliser le récipiendaire du don, c'est que c'est son droit, quand il est dans une situation d'indigence, de recevoir une part de ce qui lui revient d'un autre qui n'a d'un bien qui le dépasse, puisque c'est celui de Dieu, il n'en a que l'usufruit, il n'en est que le gestionnaire, et donc la part qui lui revient, c'est un droit divin qui lui est donné, et le donateur, de ce point de vue, ne fait que s'acquitter d'un devoir.
En effet, c'est pour cette raison qu'un certain nombre de canonistes placent le don dans le chapitre des dettes, duyun. C'est-à-dire, c'est une dette envers le pauvre. C'est-à-dire que le riche, c'est lui qui est endetté envers le pauvre. Et deuxièmement, les canonistes, ils ont fait la différence entre zakat et sadaqa. La zakat consiste à donner au pauvre ce qui lui appartient, alors que la sadaqa, c'est lui donner de ce qui nous appartient, donner de ce que Dieu nous a confié. Donc, il ne faudrait pas s'en prévaloir, même si l'acte charitable en soi est méritoire. Donc, effectivement, cette vision du don, un petit peu, relativise le don et ne gêne pas le bénéficiaire, ne gêne pas le récipiendaire, comme vous le qualifiez, ne le culpabilise pas. Sinon, le don devient un moyen d'exploitation et de domination. C'est ça la gravité du don, parce qu'il y a des dons qui sont nocifs, des dons humiliants. Et le Coran, d'ailleurs, met en garde le donateur d'accompagner le don par des gestes d'offense. Tibéouna sadaqatihim bil manni wal ada, ceux qui donnent, mais quand ils donnent, ils offensent en même temps le bénéficiaire. Il y a des dons qui sont offensants, il y a des dons qui sont humiliants. Et donc, effectivement, le don en tant que tel n'a de sens qu'à travers la symbolique et l'intention qui est derrière le don.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de la gratuité du don dans tous ses états. À l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère et donc cette journée internationale reconnue par l'ONU pour l'élimination de la pauvreté avec le grand imam de Bordeaux, Tarq Oubrou, théologien de renom, essayiste, écrivain, homme de réflexion, canoniste. Et avec vous, Tarq Oubrou, nous passons en revue toutes les dimensions du don. D'abord son aspect d'interprétation, son paradigme herméneutique pour le croyant musulman et pour les croyants d'une manière générale dans votre réflexion, sa dimension canonique, sa dimension sociale, métaphysique. Et en parlant de la dimension sociale, la pauvreté, on va peut-être revenir tout à l'heure à ce que d'aucuns parlent de la sainte pauvreté, celle où l'on est, on a de quoi subvenir à ses besoins et on n'a pas besoin d'au-delà et de plus. Mais la pauvreté qui fait que le peuple, je reprends peut-être la parole de Victor Hugo dans Claude Gueux, lorsqu'il dit « le peuple a faim, le peuple a froid, la misère le pousse au crime ou au vice selon le genre ou selon le sexe ». Et dans Claude Gueux, on coupe la tête finalement de Claude Gueux. Et il dit « cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la, et vous n'aurez pas à la couper ». Enfin, j'ai cité de mémoire, j'espère que je ne me suis pas trompé. Et donc, il y a un devoir pour la société d'être solidaire et de ne pas laisser l'exclu, le miséreux, le pauvre au bord du chemin.
Oui, une solidarité qui est à l'initiative de l'individu en tant qu'individu, mais il y a une dimension, je dirais, politique, juridique, sociale de l'organisation de la solidarité. Il y a un aspect rationnel de la solidarité. Donc c'est une affaire de toute la société, pas uniquement de l'individu en tant qu'individu. Et donc le don, il doit être un paradigme sociétal où tout le monde a besoin de tout le monde. Voilà. Il faut se sentir tous, il faut que nous nous sentions tous vulnérables. Et cette situation de vulnérabilité fait qu'on devient solidaire par rapport à autrui, comme dit le Coran, Dieu il a fait en sorte que les uns soient au service des autres. Donc il faut être au service des autres. Là, chacun ses compétences. Et là, je peux être pauvre dans ce domaine-là, riche dans un autre domaine, parce qu'il y a une pauvreté intellectuelle, il y a une pauvreté spirituelle, une pauvreté matérielle, il y a une pauvreté de compétences également. Donc si on élargit le concept de pauvreté, c'est la dépendance, nous sommes tous dépendants les uns des autres, d'une certaine manière. Mais cette dépendance doit être organisée au niveau de la société. Il y a les associations, il y a les organisations humanitaires, il y a le rôle de l'État en tant que régulateur, également celui qui collecte la fiscalité obligatoire et la distribue équitablement. Donc chacun doit assumer sa part de responsabilité dans cette solidarité.
Et c'est le fameux humanisme théocentré. J'aime Dieu, je lui voue un culte pur et sincère et je le traduis par l'amour que j'ai pour l'humanité parce que les hommes, l'homme est icône et vicaire de Dieu sur terre.
Oui, l'homme est au centre de l'existence. Sans l'homme, il n'y a même pas la notion de l'idée de Dieu lui-même. Donc tout passe par ce que j'appelle une théologie anthropologique ou bien une anthropologie théologique. Les deux sont intriqués. Tout passe par l'homme. C'est de l'homme dont il s'agit. Il est au centre, justement, du sujet de la révélation elle-même, de la révélation divine. Comment je dois recevoir cette révélation divine, par exemple, l'interpréter au bénéfice de l'homme également. La loi doit être au service de l'homme, c'est-à-dire c'est un don. Et donc, effectivement, l'homme est au centre, de cette notion de solidarité.
Et que diriez-vous, Tarko Brou, à ceux qui parlent même de d'énigme de l'humanité, du secret de l'homme? On en trouve deux sortes. Il y a l'humanité tout entière qui est un cloaque, un bourbier, une guerre sans fin de chefaillons, de ceux qui veulent écraser autrui, et l'on est dans une course effrénée entre la cuirasse et l'épée depuis les guerres puniques jusqu'à nos jours, et on a envie de s'accaparer des richesses et passer en écrasant autrui. Et l'autre où l'homme est tout de même compatissant, je pense à, là aussi de mémoire, à Virgile dans son Énéide, lorsqu'il dit que les malheurs humains suscitent des larmes et touchent les cœurs. C'est le même homme qui peut vivre les deux situations où il y a une sorte, on peut, si j'ose dire, compartimenter comme ça les réactions humaines.
Là, vous évoquez une question qui est en rapport avec le sujet du mal et de la souffrance. Est-ce que l'homme est ontologiquement mauvais ou bien ontologiquement bon? Ce que je connais de la théologie musulmane à travers le discours coranique, l'homme est ontologiquement bon, sauf qu'il est prédisposé à commettre le mal. Donc, il faut chercher ce bien enfoui dans la nature primordiale de l'être humain et qui a été obscurci par l'éducation, par les interactions de la société. Je dirais même que la vision de Rousseau à cet égard-là reflète très bien la vision théologique optimiste de l'être humain comme un être bon, mais qui est perverti par la société, par la civilisation, par la cupidité, etc. Et donc, tout le travail consiste à renouer avec cette prime nature bonne et généreuse, la création primordiale, fetra, pour évoquer un vocable scripturaire, cette fetra qui est bonne dès le départ, et généreuse.
Et quasi intraduisible dans d'autres champs sémantiques. La fitra, c'est la
création primordiale.
Ou la prime nature, voilà. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais comme vous avez évoqué ce terme, oui, ce vocable, on ne le trouve pas dans d'autres langues.
Effectivement. Donc il faut chercher en l'homme ce qui est bien. Au-delà de l'enveloppe des apparences qui peuvent... il y a entre le phénomène et le noumen. Le noumen est bon, même si le phénomène humain peut donner à une compréhension vraiment négative sur l'homme. Moi, je ne suis pas d'accord sur cette idée que l'homme est le loup pour l'homme d'Hobbes. C'est une perception conflictuelle et je pense que il faut que les philosophies, les idées les plus optimistes, un optimisme, je dirais, actif et énergique, une vision positive de l'être humain, parce que l'optimisme, il est agissant, alors que le pessimisme, il est inhibiteur en général. Et donc, je pense qu'il faut être optimiste malgré des apparences vraiment très négatives que nous livre notre monde. Il y a une enveloppe du mal qui cache la nature bonne de l'être humain.
Homo homini lupus de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Et la reprise de Plaute. Ce qui est curieux, c'est que le loup n'est pas un loup pour son propre congénère.
Parce qu'il ne tue jamais son semblable.
Bien évidemment. Et néanmoins, le néanmoins n'est pas une restriction par rapport à ce que vous dites, c'est que j'ai tout de suite la parole en tête, la parole de Joseph Brzezinski, fondateur d'aide à toute détresse, en son temps en tout cas, quand il dit, et à juste raison, que là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont bafoués, sont violés. Donc s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Il nous incombe, nous autres humains, d'agir, il nous incombe de nous comporter de telle sorte que la misère doit être vaincue et que la pauvreté éliminée.
Oui, c'est un combat qu'il faudrait mener, une forme de jihad social ou jihad moral, un combat contre sa propre cupidité. D'ailleurs, zakat veut dire purification, se purifier, se libérer de son égocentrisme, de sa cupidité, de son avarice, se libérer. Le don libère en réalité l'être humain. On se décharge, et en se déchargeant, on croit. Je dis toujours, celui qui croit donne, et celui qui donne croit avec accent circonflexe sur le i. Donc, la croissance par le don, c'est même une économie. Il y a une rentabilité dans le don, une rentabilité économique. Il faut faire circuler les biens parmi les hommes.
Conformément au hadith ou à l'aphorisme qui dit « Nul aumône n'a fait diminuer une richesse ».
En effet, il y a bien sûr un effet spirituel, mais il y a un effet économique également. « Kay la yakuna dawlatan bayna al-aghniya wa minkum » dit le verset, pour que l'argent ne soit pas concentré dans la main d'une partie d'entre vous. Donc c'est nuisible même pour l'économie.
Oui, et l'enseignement coranique cette fois-ci, « Soyez assidus à la prière, faites l'aumône, vous retrouverez auprès de Dieu le bien que vous aurez acquis à l'avance pour vous-même. » Le fait de donner, c'est en quelque sorte, c'est pour aller dans votre sens, celui de l'accroissement et de la croissance. En revanche, il y a aussi une forme d'hypocrisie chez certains. Il y a ceux qui, par ostentation, essayent d'accomplir la prière et s'acquitter de l'aumône. Et parfois, on le fait qu'en présence de certains, et ailleurs, on les néglige, on ne le fait pas. Parce que j'ai en tête la fameuse sourate 107, celle de l'ustensile, qui dit « As-tu vu celui qui traite la religion de mensonge ?» C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur aux orants insoucieux de l'office, qui prient par ostentation et refusent obstinément d'aider au nécessaire. Cela, fin de citation, ceux-là sont finalement ont perdu leur raison d'être ici-bas.
Oui, l'ostentation annule la valeur méritoire de l'acte. Si on donne les choses, on les fait pour l'absolu qui est Dieu, il ne faut pas chercher d'autres intérêts, c'est-à-dire le statut social. Aujourd'hui, la générosité est devenue vraiment le mécénat. Il y a des gens aujourd'hui qui font la publicité pour leurs dons, etc. Il y a deux manières de faire la publicité pour le don. Il y a la manière ostentatoire, c'est-à-dire pour se faire prévaloir. Il y a la manière d'encourager autrui parce qu'il faut rendre le don public pour encourager autrui à donner, pour que le généreux ne soit pas dans la solitude. Il faut vulgariser, il faut divulguer, il faut banaliser le don. Et si on a une intention de montrer le don pour encourager autrui, eh bien, on est doublement méritoire parce qu'on a fait le don et on a encouragé autrui à donner le don. Donc, effectivement, il n'amène à mal au biniyat, les actes ne valent que à travers l'intention qui les motive.
Qui les sous-tend, oui.
En général, pour revenir à la question de la croissance, par le don, en réalité, donner, c'est se donner à soi-même. Celui qui fait le bien, il le fait pour soi-même. Donc c'est quelque chose de très important. Le premier bénéficiaire du don, c'est le donateur lui-même.
Oui, il y a cette injonction faite au prophète dans la sourate 9, les versets 103 à 104. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. Prie pour eux, ta prière est une quiétude pour eux, et Dieu est celui qui entend et sait tout. Ne savent-ils pas que c'est Dieu qui accueille le repentir de ses serviteurs adorateurs, que c'est lui qui agrée les aumônes, qu'il est indulgent, il est le très miséricordieux. Donc finalement, fin de citation, finalement, par le don, on est purifié. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire de purification? L'homme n'est pas souillé intrinsèquement.
La purification, c'est la libération de l'homme de sa propre avarice.
Et de ses vices, oui.
Et de ses vices. Je pense, pas uniquement je pense, mais je crois que le propre de la foi, c'est le don. La foi se mesure à la qualité du don. C'est très important cela. Une foi qui ne fait pas sortir l'individu de la prison, de son égoïsme, de son avarice, cette obsession de la possession, au lieu de posséder l'argent, il est possédé par l'argent. Le propre de la foi, c'est sortir de l'ego. Et le don, c'est la sadaqatu burhan, dit le hadith. Le don, c'est la preuve de l'authenticité de la foi. D'ailleurs, chaque fois que le Coran parle de salat, la prière, qui est le deuxième pilier de la foi, de l'islam, il évoque systématiquement le don. On ne peut pas avoir une connexion avec le divin sans le partage des biens avec autrui. C'est presque consubstantiel, ces deux notions de la connexion par la prière au divin et le partage des biens avec autrui.
Oui, nous connecterons, enfin par ma question, j'essaie de revenir à ce que nous disions au début de l'entretien à propos de la gratuité du don, etc. Pour le croyant, dans un contexte de foi et dans un cadre religieux, donner à autrui, c'est prêter à Dieu, comme il est bien dit parfois. C'est le verset 18 de la sourate 57, où il est dit « Ceux et celles qui font la charité et qui en font à Dieu un prêt sincère, cela leur sera multiplié, ils auront une généreuse récompense. » Donc, donner à autrui, a fortiori quand il est dans une situation de vulnérabilité et d'indigence, finalement, c'est un prêt à Dieu et on attend par là une récompense, soit ici-bas, soit dans un au-delà annoncé comme meilleur et durable.
Oui, en effet, il y a l'autre verset, aussi symbolique que celui-là, qui dit que Dieu accepte les dons. Donc, en réalité, c'est pour consoler le pauvre. Si Dieu lui-même prend et accepte les dons, le pauvre n'a pas de raison d'être dans une situation inférieure par rapport à celui qui lui donne. Puisque Dieu lui-même, il accepte l'aumône de ses serviteurs. En vérité, c'est Dieu, il est à côté du pauvre d'une certaine manière. C'est vraiment élever le pauvre à un statut vraiment sacral d'une certaine manière. Donc Dieu lui-même, il se met à la place du pauvre puisque lui-même, il accepte. Moss, bien sûr, il a dit il faut les trois éléments du don, de recevoir, donner et le don, le côté.
Voilà, recevoir, donner
et rendre.
Et rendre.
Il y a un troisième élément qui a été ajouté par un sociologue qui est demander. Le quatrième pilier, c'est savoir demander. Il ne faut pas avoir honte de demander quand on a besoin. Mais donc, le pauvre, quand il a besoin, il ne doit pas avoir honte de demander. Et c'est très important de revendiquer son droit également. De revendiquer le monde, c'est pas une honte.
Thank you.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui particulièrement nous parlons du don, de l'aumône, de l'aide qu'il faut prodiguer aux nécessiteux et c'est à l'occasion de la journée internationale de l'élimination de la pauvreté reconnue par l'ONU et celle, la journée mondiale du refus de la misère du 17 octobre. Avec Tarek Obrou, grand imam de Bordeaux, recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux, théologien, essayiste, un homme de réflexion, un canoniste, un jurisconsulte aussi. Et votre dernier ouvrage, L'Islam pour les nuls, c'est pour rendre accessible aux éditions First, c'est pour rendre accessible les principes fondamentaux de la tradition religieuse islamique. Pour cette dernière partie, vous commencez par l'évoquer tout à l'heure, Tarek Obrou, la misère n'est pas que matérielle, il y a la misère affective. À côté de la misère effective, il y a ceux qui sont dans la déréliction la plus totale, un sentiment d'abandon, de solitude intérieure, qui pousse, si je devais utiliser un terme un peu plus poussé, dans l'assédie, dans le fait de se sentir abandonné et donc on est un peu dans la détresse. Et alors, quelle sorte de don ? Certes, le sourire est une aumône, est un don, et c'est une sorte de d'accompagnement, d'écoute, de prise en charge de cette détresse.
Oui, la relation en tant que telle, établir une relation avec autrui, c'est déjà une forme de don. Conseiller autrui, d'être disponible pour servir autrui, être utile pour autrui, c'est une dimension du don. Aujourd'hui, dans nos sociétés de plus en plus individualistes, il y a un risque d'atomisation, d'éclatement, d'isolement des individus. Il y a beaucoup de personnes qui vivent qui sont isolées de la société. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et la technologie du virtuel va augmenter cette forme de pauvreté, c'est-à-dire pauvreté d'abord intellectuelle, pauvreté une misère spirituelle, mais également un isolement physique. On met à l'écart des gens qui sont isolés de fait de la société. Et donc, effectivement, il faut trouver des lieux de sociabilité, de rencontres. Il y a des gens qui sont âgés, il faut les accompagner, il faut leur rendre visite, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gestes qui relèvent du don et qui ne sont pas forcément des gestes d'ordre matériel, qui relève de la sollicitude de l'attention à l'égard d'autrui, des gens qui sont invisibles ou bien qui sont rendus invisibles dans la société.
Oui. Je pense, en vous écoutant, je pense à cette parole du psalmiste dans les psaumes où il est dit mon âme est accablée par la tristesse, elle s'est endormie à cause de la sédie, donc relève-moi conformément à ta parole. Donc parfois, et même dans certains cas, on le voit assez souvent, les biens de ce monde, les biens matériels, la richesse, n'arrivent pas à réjouir. Il y a une forme de neurasthénie, de tristesse intérieure. Et là, outre la sollicitude, la prise en compte de cet intérêt psychologique, affectif, etc., que faire ? Accompagner ? Dire qu'il ne faut pas désespérer de ce monde aussi ? Il y a un accompagnement spirituel ?
Et l'accompagnement spirituel, mais psychologique également, parce que la spiritualité est connectée à la dimension psychologique. Vous avez évoqué la sidi, qui est une fatigue, une forme de fatigue, de lassitude de l'existence, voilà, une fatigue de l'être, d'une certaine manière, et des gens qui sont qui sont fatigués d'exister. Et donc, il faut il faut les encourager à reprendre vie pour s'intégrer dans la collectivité, dans la société. Et c'est un combat qui est un combat à tout individu. Je pense que le 21e siècle sera solidaire ou il ne sera pas. Il faut qu'il y ait une solidarité familiale, déjà, c'est le premier foyer de la solidarité. Il faut que nos enfants apprennent à partager. C'est le premier foyer de l'éducation, c'est la famille. Il faut qu'il y ait une générosité au sein de la famille, dans le couple, entre les générations, entre les parents, les enfants, etc. Il faut que ça, à l'école également, il faut que l'école développe ces pratiques de la sollicitude, du partage. Sinon, notre société va s'effriter, les liens vont s'effriter. Le don, c'est la cohésion des individus, des membres d'une même société. C'est pas un choix, c'est vraiment une nécessité existentielle. Je pense qu'il faut réintroduire la culture de la solidarité. Aujourd'hui, malheureusement, l'économie, la crise économique fait que il y a des suppressions budgétaires, etc., etc., ce qui risque d'aggraver la situation de pauvreté dans notre pays. Il faut faire attention à ce genre d'effets économiques qui pourraient être dévastateurs, justement, à la cohésion sociale. L'État doit jouer son rôle parce que nous sommes on ne peut pas parler de la solidarité sans prendre en considération l'aspect politique, parce que nous sommes dans des États-nations. Et en tant que croyants musulmans, il y a la charité religieuse, il y a le don, etc. Donc les religions, les spiritualités, les associations humanitaires et sociales doivent jouer leur rôle. Mais également, il y a quand même la gestion de la collectivité, une bonne manière de collecter l'impôt et de bien le distribuer là où il y a un vrai besoin.
Oui. Tal Kobrou, il y a, en écho à ce que vous dites, il y aurait, j'utilise le conditionnel, ceux qui pourraient objecter que de tout temps et à travers l'histoire jusqu'à nos jours, il y a eu deux formes de pauvreté ou deux catégories. La fameuse pauvreté honnête et sanctifiante, celle où, dans laquelle on n'est pas obnubilé par les biens matériels qui font écran contre l'essentiel de la vie. La littérature, la philosophie s'est penchée justement sur ces cas-là. Et il y a cette autre pauvreté, pécheresse et coupable, les épithètes ne sont pas de moi, où l'on trouve 80% maintenant, selon certaines statistiques récentes, de ceux qui sont condamnés à cause de l'ivronnerie, la paresse, la débauche, l'escroquerie appartiennent à ceux qui n'ont pas voulu se prendre en charge. Et on entend dans certains discours politiques des méfaits de l'assistanat, etc. Donc, quelle est la bonne équation, si je puis dire, d'un point de vue à la fois social et même spirituel?
Il y a aussi, comme vous l'avez évoqué, il y a plusieurs formes de pauvreté, il y a plusieurs formes de dons. Il y a un don qui est efficace. Il y a un don qui est inefficace, celui qui entretient la pauvreté. Il faut que le don soit un catalyseur d'une prise en charge du bénéficiaire, le don durable, sadaqa jariya, ou bien il faut que le don soit bénéfique au bénéficiaire dans la mesure où il ne l'entretient pas dans la paresse. Et donc le don par le don de l'outil de l'autonomie, lui donner aux pauvres les moyens de se prendre en charge, la capacité pour utiliser une notion des économistes. Il faut le rendre capable de se prendre en charge lui-même. Donc il faut lui donner des moyens intellectuels, des outils, etc., pour qu'il se prenne en charge. Mais comme vous l'avez dit, la pauvreté peut être le foyer de la criminalité également. On n'a pas intérêt à ce que la pauvreté se développe, parce que c'est le foyer favorable à toutes les dérives imaginables. Et donc, effectivement, la société a intérêt à combattre la pauvreté, mais de manière efficace. L'assistanat, c'est pas un don. Le don ne doit pas entretenir le pauvre dans la pauvreté.
Oui, et la lutte contre la pauvreté ne doit pas devenir une action contre les pauvres, comme certains, dans la facilité, le pensent et ils y glissent. Et puis, peut-être, il y a une autre question, c'est que les questions de misère, de pauvreté n'ont pas été prises en charge par les grandes disciplines, j'allais dire, de la pensée humaine. On aborde ça par l'économie. Là, je m'adresse à un théologien. Par moment, il y a eu quelques réflexions d'ordre philosophique, mais peut-être qu'il faudrait une approche interdisciplinaire pour une connaissance inclusive qui permet l'action salvatrice afin d'éradiquer la pauvreté. Parce que la sensibilité au scandale de la misère et la révolte devant l'injustice et la contestation d'un ordre inhumain des sociétés individualistes et indifférentes au sort d'autrui, doivent être suivies d'actions efficaces et pérennes, à la fois au niveau de la réflexion et aussi au niveau de l'action.
Oui, en effet, c'est la question du don, elle est liée à la notion de la justice. On ne peut pas... Il y a la justice, il y a la bienfaisance. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dieu ordonne la justice et la bienfaisance. La justice, c'est la charité. Mais il ne peut pas y avoir de charité s'il n'y a pas une base de justice dès le départ. Donc, on est dans un paratoire juridique, et canonique. On est à un niveau de la loi également. La loi doit intervenir. Elle doit être solidaire. Les lois que nous votons au Parlement doivent être des lois à visée solidaire. Comment créer une solidarité entre les concitoyens. C'est ça le génie d'un législateur, c'est de trouver les bonnes formules législatives pour permettre cet équilibre, réduire les inégalités. Il y aura toujours des inégalités, il y aura toujours des riches qui sont plus riches que les riches et des pauvres qui sont plus pauvres que des pauvres. On ne peut pas éradiquer totalement ces deux notions de richesse et de pauvreté. Il s'agit de réduire l'écart entre les pauvres et les riches.
Ou faire en sorte, pour ceux qui ont cet optimisme à la fois de volonté, que ça finira par s'arranger. Je pense au Tikkun HaOlam de la tradition juive, la réparation du monde et de colmater toutes les brèches, toutes ces fractures, ou même l'apocatastase, le rétablissement, la restauration finale, la reconstruction, la réconciliation universelle, pour qu'il n'y ait pas de souffrance ici-bas, due à l'indigence matérielle ou à tel ou tel handicap psychologique.
De toute manière, il y a beaucoup de philosophes politiques, philosophes économistes et également qui ont beaucoup travaillé sur ces questions de la justice sociale. Adam Smith, lui, il parle de la main invisible. Bon, il y a toujours la main. Bon, en vérité, c'est une main invisible de Dieu, mais sécularisée en main invisible du marché. Le prophète lui-même, il s'est interdit de fixer les prix. Il a dit c'est Dieu qui décide justement de ce paradigme économique qui établit l'équilibre. Donc il y a plusieurs théologies de justice sociale et de philosophie de justice sociale. Et il n'y a pas de solution toute faite. On peut toujours proposer des spéculations philosophiques, juridiques, théologiques. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de combattre. Il n'y a pas d'obligation de résultat. De toute façon, on ne peut pas changer le monde radicalement. Mais on peut combattre la misère. Il faut trouver les moyens les plus efficaces pour réduire les inégalités dans la société et entre les sociétés et les peuples, parce que quand une partie de la population du monde et pauvre, ça risque de se répercuter sur l'autre partie du monde. Donc, nous avons un destin commun. Nous devons régler ce problème au niveau planétaire, au niveau européen, au niveau national et au niveau sociétal au quotidien. Et donc, je pense qu'il faut faire la promotion du don, de la solidarité. Il faut que ça soit traité à tous les niveaux de notre humanité, depuis l'individu, en passant par la famille, la société, l'État, les continents et à travers également en intégrant les riches de ce monde également, parce que vraiment nous sommes dans un monde où il y a un écart abyssal de plus en plus manifeste entre les pauvres et les riches, et ça risque de déboucher sur des guerres et des conflits. C'est une question de salut public d'une certaine manière et de société et de paix civile. Quand la misère se développe, eh bien, c'est les révolutions, c'est les guerres, c'est les conflits. Donc il faut faire attention à cet aspect, en laissant se développer la misère dans nos quartiers, dans nos sociétés et dans les beaux lieux de notre planète, parce qu'on est dans un monde intriqué, imbriqué. Ce qui se passe en Chine a des répercussions chez nous. Ici en France, nous devons être attentifs à la misère en général, à la misère chez nous, ici dans les quartiers, dans la société française.
Merci infiniment, cher Padre Koubrou. Merci. Nous arrivons au terme de cette émission et merci de nous avoir édifiés par vos paroles.
Merci à vous également.
Sur cette nécessité du don et qui est à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Et nous avons reçu aujourd'hui Tahar Koubrou, grand imam de Bordeaux. Vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son est assurée aujourd'hui par Benjamin Vignal. Et la réalisation par l'ami François Connac.